Il est 16h01 à la pendule de Canal Sud et c'est avec un retard important que nous commençons cette revue de presse sur l'actualité internationale en ce mercredi 20 février. Mais nous avons apprécié, comme vous, on n'en doute pas, cette émission réalisée par les enfants du CLAE de Michelet. Aujourd'hui, nos lectures nous emporteront d'abord au Proche-Orient, en Turquie, puis en Israël et en Syrie. Nous sauterons ensuite le Cachemire indien, faute de temps, pour nous retrouver au Cambodge, puis en Thaïlande, et nous reviendrons rapidement aux États-Unis. Nous commençons donc cette revue de presse sur Planète Rouge en Turquie. La Turquie, où la répression continue, même si on en parle beaucoup moins. Ainsi, 729 personnes ont été arrêtées la semaine dernière, soupçonnées de liens avec le prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'avoir fomenté le coup d'État manqué de juillet 2016. En outre, 1112 mandats d'arrêt ont été lancés, donc toujours la semaine dernière. Ce nouveau coup de filet survient alors que les purges se poursuivent à un rythme soutenu, avec des dizaines, voire des centaines d'arrestations hebdomadaires. Rappelons que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont déjà été arrêtées depuis le putsch manqué et plus de 140 000 limogés ou suspendus de leur emploi. Reportage, ce sont deux minarets étendards de la présence turque sur le continent africain. Djibouti doit inaugurer ce mois-ci la plus grande mosquée d'Afrique de l'Est, entièrement financée par la Turquie et construite dans le plus pur style ottoman. Un cadeau d'Ankara à Djibouti, un moyen de gagner les cœurs et les esprits. Voilà une quinzaine d'années que la Turquie s'est engagée dans une rapide expansion en Afrique. Et Ankara ne fait pas qu'y construire des mosquées. Depuis 2005, Recep Tayyip Erdogan a effectué près de 40 visites dans 26 pays du continent, nous apprenait Jérémy Bediou dans Libération de hier mardi. En une vingtaine d'années, les échanges économiques sont passés de 100 millions de dollars à 20 milliards en 2018, tiré par la demande en biens de consommation des nouvelles classes moyennes africaines et les appétits de la Turquie en matières premières, pétrole, gaz, minerais notamment. Certaines de ces entreprises ont obtenu des contrats majeurs, comme la gestion de l'aéroport de Dakar. Le gouvernement turc se mobilise pour investir dans l'agriculture, la création de petites et moyennes entreprises et certains services comme la santé et la sécurité. Preuve que cet investissement n'est pas qu'opportuniste, Ankara organise régulièrement des sommets Turquie-Afrique sur le modèle de ceux organisés par la France ou la Chine. La Turquie cultive sa différence en promouvant une stratégie gagnant-gagnant et brocarde les anciennes puissances coloniales. Pour Burhanettin Duran, coordinateur du CETA, un think tank proche du pouvoir, le tournant de la Turquie vers l'Afrique participe de la transformation du pays en une nouvelle puissance. Longtemps concentré sur sa proximité avec l'Union européenne, l'État turc cherche de nouveaux partenaires. La Turquie se targue de cultiver une approche originale envers l'Afrique. L'engagement économique, politique et humanitaire turc est moins conditionné que celui de l'Union européenne. Et la Turquie est bien moins agressive que la Chine du point de vue économique, souligne Sinan Ülgen, directeur du Centre d'études économiques et des relations internationales d'Istanbul. Le gouvernement turc n'hésite cependant pas à s'allier avec des régimes autoritaires, notamment celui d'Omar el-Béchir, le dictateur soudanais. Malgré un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ce dernier a été invité à plusieurs reprises à des événements de prestige en Turquie, comme lors de l'inauguration en grande pompe du nouvel aéroport d'Istanbul en octobre. La Turquie soigne malgré tout sa réputation. À destination des pays musulmans, elle vante une approche de la question religieuse moins intransigeante et radicale que le wahhabisme saoudien, autre acteur influent du continent africain. L'État turc finance la construction de mosquées et d'écoles coraniques à travers son ministère des Affaires religieuses, le Diyanet. Des bourses sont aussi proposées pour venir étudier la théologie en Turquie. Par ailleurs, Ankara mobilise son agence de développement, TIKA, qui possède 20 bureaux à travers le continent, et la Fondation pour l'aide humanitaire, IHH. En Somalie, la Turquie a investi massivement alors que le reste de la communauté internationale a déserté le pays. Ankara a reconstruit l'aéroport de Mogadiscio, des écoles, des hôpitaux et entraîne l'armée somalienne. Mais cet investissement inquiète certains pays, notamment dans la Corne de l'Afrique. En décembre 2017, Ankara a obtenu du Soudan un bail de 99 ans à Souakin, sur la mer Rouge, en face du port saoudien de Djeddah. L'îlot fut une riche possession ottomane et le port d'embarquement des pèlerins du Sahel vers la Mecque jusqu'au début du XXe siècle. L'accord d'un montant de 4 milliards de dollars, fourni par le Qatar, prévoit la restauration de l'île ainsi que le développement du port attenant. L'annonce a été accueillie avec froideur par l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, pour qui la mer Rouge est une chasse gardée, qui craignent de voir leurs adversaires turcs et qataris s'y installer militairement. Riyad s'inquiète en outre de la présence turque en Afrique, où elle investit également. C'était il y a 20 ans, pratiquement jour pour jour. Le 15 février 1999, Abdullah Öcalan, chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, est arrêté illégalement au Kenya par des agents des services secrets turcs qui ont bénéficié de l'aide et des renseignements de la CIA. Transféré en Turquie, il est d'abord condamné à mort en juin 1999 avant que sa peine ne soit commuée en détention à perpétuité. Ce 15 février 1999 marque la fin d'une longue traque et d'un exil qui aura duré lui aussi 20 ans. Abdullah Öcalan est né le 4 avril 1949 dans une famille paysanne de 6 enfants dans le village d'Omerli à la frontière syrienne. Il aura donc bientôt 70 ans, nous détaille Pierre Barbancé dans L'Humanité de jeudi dernier. Jeune étudiant en sciences politiques à Ankara, il est l'un des fondateurs de la Ligue des étudiants démocratiques de cette ville, ce qui lui vaut un premier séjour de 7 mois en prison en 1972 à la suite du coup d'État de 1971. Il retourne alors avec 25 camarades au Kurdistan. Leur groupe va se transformer le 27 novembre 1978 en Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui se réclame du marxisme-léninisme avec comme objectif la libération nationale. Öcalan en devient le premier secrétaire, mais doit quitter le pays en juillet 1979 à cause de la répression qui s'abat sur le PKK et va s'intensifier contre l'ensemble des organisations de gauche après le coup d'État militaire de 1980. L'option de la lutte armée est retenue et engagée le 15 août 1984 suite à l'impasse politique et à tout refus de discussion du pouvoir central turc. Dans les années qui suivent, des dizaines de milliers de personnes seront tuées, des milliers de villages détruits, malgré les propositions de trêve formulées par celui que tout le monde va appeler Apo, c'est-à-dire l'oncle, en 1993 d'abord, puis en 1995 et en 1998. Cette année-là, il est expulsé de Turquie, faisant les frais d'arrangement entre Damas et Ankara, mais il ne trouve pas de destination finale, errant de capitale en capitale, d'aéroport en aéroport, jusqu'à ce fameux jour de février 1999. Pourtant, 20 ans après sa capture, il reste, depuis l'île-prison d'Imrali, au large d'Istanbul, une figure incontournable de la rébellion kurde. Plus de 300 détenus observent ainsi depuis plusieurs semaines une grève partielle de la faim à l'initiative de la députée kurde du Parti démocratique des peuples, Leyla Güven, qui a arrêté d'ailleurs sa grève de la faim récemment, pour protester contre l'isolement auquel il est soumis. Il n'a pas pu voir ses avocats depuis 2011. Les autorités n'ont pas permis à son frère, Mehmet, de lui rendre visite, et seulement ils l'ont autorisé à la mi-janvier dernier. Pour la première fois depuis 2016, Recep Tayyip Erdogan, qui considère Öcalan comme l'ennemi public numéro 1, connaît l'influence de ce prisonnier hors norme, capable de contrecarrer ses plans. Il continue de diriger son mouvement en délivrant, jusqu'à il y a quelques années, ses instructions à ses avocats et aux députés kurdes qui lui rendaient visite. Tel le cessez-le-feu unilatéral de 2004 ou celui de 2013 pour permettre aux discussions qu'il mène avec Ankara d'aboutir à un règlement pacifique. Pour des raisons de politique intérieure, Erdogan rompra le dialogue en 2015 et empêchera désormais Öcalan de diriger réellement son organisation, misant sur la division du leadership, aidée par le sceau de terroriste qui marque le PKK, apposé par les États-Unis et l'Union européenne. malgré les combats héroïques des combattants du PKK en Irak comme en Syrie contre l'État islamique et dont beaucoup sont tombés au cri de « Vive Öcalan ». Et c'était, comme vous l'avez reconnu sans doute, Highway to Hell de AC/DC, un morceau qui a eu 40 ans, exactement 40 ans, hier, donc le 19 février. 40 ans pour ce morceau, Highway to Hell, AC/DC bien mal en point, mais qui prépare soi-disant un album avec les rescapés du groupe originel. Alors tout à l'heure, je vous parlais des effets de la Turquie, des efforts de la Turquie, pardon, pour tisser des liens avec le continent africain. Israël tente également d'étendre son influence dans cette région, mais aussi en Amérique du Sud et en Europe, en courtisant récemment les pays de l'Est de l'Europe, Hongrie, Roumanie, Pologne, avec quelques couacs cependant concernant ce dernier pays. Mais l'objectif principal d'Israël est de reprendre le commerce avec les pays arabes voisins qui oublient volontiers la cause palestinienne. Officiellement, la conférence internationale organisée à Varsovie sous la houlette des États-Unis avait pour objectif de promouvoir la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Un thème aussi vaste que flou, qui n'a pas fait long feu quant au but ultime de Washington, mettre en accusation l'Iran, forcer les pays européens à se retirer de l'accord nucléaire avec Téhéran et, in fine, remodeler une fois pour toutes le Moyen-Orient dans une nouvelle configuration, faisant disparaître d'une manière ou d'une autre les Palestiniens et portant sur les fonds baptismaux la nouvelle alliance entre Israël et les pays arabes, à commencer par l'Arabie Saoudite. Simple sur le papier, plus délicat dans la réalité, écrivait Pierre Barbancé dans L'Humanité de vendredi. Le temps est venu pour nos partenaires européens de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien et de se joindre à nous pour exercer la pression économique et diplomatique nécessaire pour donner au peuple iranien, à la région et au monde la paix, la sécurité et la liberté qu'ils méritent, a lancé le vice-président américain Mike Pence, tout en qualifiant l'Iran de plus grand danger au Moyen-Orient et accuser le régime iranien de préparer un nouvel holocauste en raison de ses ambitions dans la région. Au conseil donné sur le ton du maître a suivi la menace. Il a dénoncé une nouvelle initiative de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni visant à permettre aux entreprises européennes de continuer à opérer en Iran malgré les sanctions américaines. En revanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, présent, n'en pouvait plus de joie. Outre qu'il s'est délecté des menaces américaines contre l'Iran, le chef du gouvernement israélien savait que l'autre objectif était bien sûr la volonté états-unienne d'en terminer avec la question palestinienne. Mercredi soir, donc mercredi dernier bien sûr, à l'occasion d'un dîner, il s'est trouvé à la même table que de hauts responsables de pays arabes, pouvant ainsi juger par lui-même que les frères arabes ont bel et bien abandonné le peuple palestinien. En s'engouffrant, sous prétexte de la menace iranienne, dans une normalisation avec Israël, ils vont même jusqu'à renier, voire déchirer, le plan arabe de 2002, qui proposait une normalisation avec Tel Aviv, notamment à condition qu'un État palestinien soit créé dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Les Palestiniens ne sont pas dupes et ne sont pas venus à cette conférence. Eux qui ont rompu leurs relations avec les États-Unis depuis que ces derniers ont reconnu Jérusalem, capitale d'Israël, savent de quoi il en retourne. Quel pays arabe s'est opposé à la fermeture des bureaux de l'OLP aux États-Unis? Quel pays arabe a dénoncé la coupure des crédits américains à l'UNRWA, l'Organisme des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens? Quel pays arabe a pris des mesures de rétorsion pour protéger Jérusalem? En prenant totalement le parti du gouvernement israélien, l'administration Trump cherche à normaliser l'occupation israélienne et le déni systématique du droit palestinien à l'autodétermination. La conférence de Varsovie s'inscrit dans ce contexte, a dénoncé Nabil Shaat, un conseiller du président Mahmoud Abbas, dans une tribune publiée par le quotidien israélien Haaretz. Israël encore. En vertu d'une nouvelle loi sur les familles des auteurs d'attaques anti-israéliennes, le versement par Israël d'une centaine de millions d'euros à l'autorité palestinienne est suspendu jusqu'à on n'en sait rien. Il s'agit d'une loi importante que nous allons appliquer comme je l'ai promis. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a justifié lundi, hier donc avant-hier, la suspension du versement d'une centaine de millions d'euros à l'autorité palestinienne. Cette somme est le produit de la TVA et des droits de douane prélevés par Israël sur les biens importés par Ramallah, expliquait Damien Ronstel dans L'Humanité de hier mardi. En juillet 2018, le Parlement israélien avait voté une loi sur les familles des auteurs des attaques anti-israéliennes qui permet de geler les fonds à hauteur des allocations versées en 2018 par l'autorité palestinienne à des terroristes emprisonnés à leurs familles et aux anciens détenus. Cette mesure n'avait jusqu'à présent jamais été appliquée. C'est le meurtre, la semaine dernière, d'une jeune Israélienne par un Palestinien à Jérusalem qui a fait office de déclic. L'autorité palestinienne, présidée par Mahmoud Abbas, verse une allocation aux familles des prisonniers palestiniens et des martyrs. Selon le président Abbas, il s'agit d'un devoir national, humanitaire et social qui doit toujours être rempli indépendamment des pressions israéliennes et internationales. Selon Ahmed Majalani, un responsable de l'Organisation de libération de la Palestine, le gouvernement d'occupation israélien cherche à détruire l'autorité palestinienne en partenariat avec l'administration américaine de Donald Trump. Selon les termes de la loi, le ministre de la Défense doit présenter en fin d'année au cabinet un rapport sur les sommes payées par l'autorité palestinienne aux prisonniers palestiniens et à leurs familles l'année écoulée. L'année suivante, Israël pourra geler chaque mois un douzième de la somme indiquée dans le rapport du ministère de la Défense sur les taxes et droits de douane. Au cas où l'autorité palestinienne cesserait de venir en aide aux prisonniers et à leurs familles, le cabinet du ministre de la Défense pourra décider de dégeler partiellement ou complètement les fonds retenus. Top, top, voilà. Donc, c'était un morceau de Queens of the Stone Age, This Lullaby, pour une introduction du morceau Medication. Nous rejoignons maintenant le Moyen-Orient, vers le sud-est de la Syrie, près de la frontière irakienne. Dans l'est syrien, la coalition arabo-kurde devrait annoncer sa victoire contre Daesh d'ici quelques jours. Ben, ça, c'est ce qu'on disait vendredi. Mais la défaite du califat ne signifie ni la fin du groupe terroriste qui conserve des cellules clandestines dans de nombreux pays, ni celle de la guerre en Syrie avec une inquiétude sur le devenir des Kurdes. Le village de Baghouz restera dans les mémoires, situé dans le sud-est de la Syrie, à proximité de l'Irak, sur la rive orientale de l'Euphrate. Le dernier réduit de Daesh était presque repris samedi 16 février par la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes, FDS, qui combat depuis 2015 les djihadistes de l'État islamique. La victoire sera annoncée dans quelques jours, a annoncé un commandant des FDS à l'AFP. Bon, on est quelques jours après, c'est pas encore annoncé, mais d'ici deux ou trois semaines, ça va arriver. Une dernière poche de résistance subsiste encore, écrivait Alexis Fetzlak dans le Figaro de lundi. Il y a toujours de nombreux civils à l'intérieur du confetti d'un demi-kilomètre carré, encore tenu par les djihadistes, et c'est une surprise de taille pour nous, a indiqué Adnan Afrin, porte-parole des FDS sur le terrain. La défaite tant attendue de Daesh, amorcée dès 2017 avec la chute de ses deux capitales, Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak, comporte d'ores et déjà son lot d'interrogations. Est-ce vraiment la fin de Daesh? La question est posée par l'auteur de l'article, Alexis Fetla, qui répond « Non, Daesh prépare depuis plusieurs années son retour à la clandestinité comme Al-Qaïda ou d'autres groupes djihadistes. Sa défaite marque l'aboutissement d'un processus de déterritorialisation de l'organisation terroriste qui avait réussi dès 2014 à s'emparer de très vastes territoires dans l'est de la Syrie et dans l'ouest de l'Irak. De nombreux djihadistes pourraient tenter de se fondre dans la masse des civils et opter pour des actions de guérilla plus discrètes ou des attentats suicides pour maintenir un climat de terreur. Mi-janvier, un attentat d'ailleurs a frappé la ville syrienne de Manbij, tuant 4 Américains quelques jours seulement après que Donald Trump eut annoncé le retrait des troupes américaines. Daesh possède aussi des cellules clandestines dans de nombreux pays du monde, principalement en Afrique, mais aussi en Asie. C'est notamment le cas en Afghanistan, en Ouzbékistan, en Libye, en Égypte, dans le Sinaï notamment, au Nigeria avec Boko Haram et plus largement dans une large partie de l'Afrique de l'Ouest. Certains djihadistes de la zone irako-syrienne rejoignent depuis plusieurs mois ces pays. Est-ce la fin de la guerre en Syrie? Non, non plus, même si les différents fronts se sont stabilisés ces derniers mois. Le pays se décompose en trois zones. La principale, qui représente près des deux tiers du territoire, mais une part plus importante de la population, est tenue par le gouvernement central de Damas, appuyé par ses alliés russes et iraniens. Bachar el-Assad contrôle les principales villes du pays, Damas, Alep, Homs, Hama, Deir ez-Zor, et voit son isolement réduit par la réouverture des frontières avec le Liban et la Jordanie. À l'est de l'Euphrate, les FDS occupent une part importante du territoire. Il s'agit des cantons traditionnellement kurdes du nord, mais également de territoires arabes au sud. Reste enfin au nord-ouest du pays le gouvernorat d'Idleb, qui demeure la dernière région tenue par la rébellion. Il s'agit de divers groupes islamistes, voire djihadistes, placés sous l'influence turque, le principal étant le front Fatah al-Sham, l'ex-al-Nosra, lié plus ou moins directement à Al-Qaïda. Cette dernière zone, située à proximité de lieux stratégiques, par exemple Latakia, le fief de la famille Assad, fait l'objet d'intenses tractations diplomatiques entre la Russie, l'Iran et l'Irak. Alors qu'Ankara continue d'appuyer certains groupes rebelles pour conserver son influence dans le jeu syrien et pouvoir s'opposer aux Kurdes, Damas souhaite au contraire reprendre cette province pour éradiquer le dernier bastion de la rébellion. Une reprise des combats en cas d'échec des négociations entre Moscou, Téhéran et Ankara est dès lors une possibilité. Que vont devenir les Kurdes? Difficile à dire. Donald Trump a annoncé en janvier le départ des troupes américaines de Syrie qui soutenaient les FDS dans leur lutte contre Daesh, mais servaient aussi pour Washington à endiguer l'influence de l'Iran, bête noire des néoconservateurs américains. Avec la défaite territoriale du califat, le retrait américain devrait ainsi s'accélérer, même si, comme l'a rappelé ce samedi le vice-président américain Mike Pence, les États-Unis garderont une forte présence dans la région et continueront de traquer les vestiges de l'État islamique partout et à chaque fois qu'ils sortiront leur sale tête. Washington conserve notamment des forces en Irak et au Qatar. Reste que, privés de leur principal soutien en Syrie, les Kurdes se retrouvent à la merci des Turcs, qui ont déjà mené contre eux deux opérations en Syrie, Bouclier de l'Euphrate d'août 2016 à mars 2017, puis Rameau d'Olivier en janvier 2018, qui a conduit à la chute d'Afrin. Dans leur lutte contre l'influence régionale de l'Iran, les Américains sont tentés de renouer avec les Turcs qui, bien que dans l'OTAN, se sont considérablement rapprochés de Téhéran et de Moscou ces derniers mois, formant un trio qui dérange Washington au plus haut point. Face au péril turc, les Kurdes ont d'autre choix que de se rapprocher du gouvernement central de Damas et de la Russie. Le réduit où se terrent encore des centaines de combattants djihadistes tombera un de ces jours. Alors se posera la question du retour ou non des nationaux dans leur pays d'origine. Une éventualité largement débattue dans la presse ces derniers jours. Le quotidien Libération livrait ce samedi une enquête fouillée sous la forme d'un reportage captivant près de cette zone. Outre le sort des combattants, se pose celui des familles et, notamment, des enfants. Obeida, 1 an, et Amar, 3 ans, ne pleurent pas. Ils restent immobiles et silencieux, le regard dans le vague, indifférent. Ils réagissent à peine quand on les appelle. Les deux frères ne peuvent pas savoir qu'ils sont dans le camp d'Al-Hol, dans les collines du nord-est syrien. Ils ne savent pas non plus que c'est là que les femmes djihadistes et leurs enfants sont enfermés. Personne ne leur a dit, et ils ne sont de toute façon pas en âge ni en état de comprendre, relate Luc Mathieu, envoyé spécial sur la zone. Obeida et Amar sont français. Ils n'ont aucun papier, aucune existence légale. Mais leur mère, Julie Maninsheda, originaire de la région lilloise, était française. Elle est probablement morte à la fin du mois de janvier dans un bombardement à Al-Baghouz, village poussiéreux perdu entre l'Euphrate et l'Irak, dernier reliquat du califat de l'État islamique qu'elle avait rejoint 4 ans plus tôt. Son corps ne sera jamais sûrement retrouvé. Et leur père, Martin Lemke, un djihadiste allemand, s'est rendu avec 2 autres de ses femmes le 1er février aux forces kurdes et arabes. Il est emprisonné depuis quelque part au Kurdistan syrien. Ses enfants ne le reverront pas avant plusieurs années, s'il le revoit jamais. Obeida est blessé, touché par des éclats d'obus et de roquettes. Son visage à la peau translucide est creusé de cicatrices noires qui s'étalent du menton au front. Sa jambe droite est rigide et maigre. Il ne peut pas marcher même à 4 pattes. Il reste assis ou couché. Son frère est plus costaud, mais il souffre de maux de ventre qui ne guérissent pas. Peu de personnes se soucient de leur sort. Seuls à Libercourt, dans le Pas-de-Calais, leurs grands-parents, Lydie et Patrice Maninsheda, se battent pour qu'ils soient rapatriés en France. Et à 4000 kilomètres, dans le camp aux grandes tentes blanches d'Al-Hol, 2 femmes djihadistes, Khadija et Mayani, ont décidé d'aider les 2 frères français. La première est sud-africaine, elle a 40 ans et un bandeau sur l'œil droit, symptôme selon elle d'une tumeur jamais soignée. La seconde est une jeune Allemande en niqab noir. Les 2 frères ne se plaignent pas, écrit rarement. Ils n'ont jamais connu le confort d'un pays en paix. Ils sont nés et ont grandi dans l'est de la Syrie, quand il était encore contrôlé par l'État islamique. Leur mère l'avait rejoint en novembre 2014 à l'apogée du califat djihadiste, qui attirait des dizaines de milliers de volontaires venus de 80 pays et que les actes de torture et de barbarie ne rebutaient pas. Julie Maninsheda avait été une élève brillante et vive. Sur une photo prise avant son départ, elle a de longs cheveux teintés en rouge, une peau diaphane et un piercing au nez. Elle était en 2e année de prépa littéraire à Lille lorsqu'elle s'est convertie à l'islam. Lorsqu'elle revenait le week-end, on voyait qu'elle avait changé. Elle portait des vêtements amples qui la couvraient. On essayait de discuter avec elle, mais c'était compliqué, dit sa mère. Elle a 20 ans et intègre l'université à Leipzig, en Allemagne, pour suivre une double licence allemand-français. Elle se lie à Martin Lemke, un Allemand converti. Son attitude change à nouveau, à rebours. Le dernier été, en 2014, elle a endormi notre méfiance. On n'a rien vu. Elle nous a dit qu'elle allait à Leipzig pour poursuivre son cursus universitaire. Mais la jeune femme s'est entre-temps mariée à Lemke. Ses parents partent pour Leipzig. Elle était tombée enceinte, elle n'avait plus le droit de sortir, d'aller à l'université, de rencontrer d'autres hommes. Elle portait le niqab, raconte sa mère. Lemke est susceptible, les parents de Julie évitent la confrontation. L'enfant naît et ses grands-parents font des allers-retours en Allemagne. L'appartement où vit leur fille est sommairement meublé comme si le couple ne comptait pas y rester. En novembre 2014, alors qu'il est censé être sous surveillance, Lemke part avec Julie et leur fils Salé pour Raqqa, fief de l'État islamique en Syrie. Lydie Maninceda a des nouvelles par intermittence. Elle tente de convaincre sa fille de rentrer. Julie lui dit qu'elle ne peut pas, qu'elle a peur de son mari, qu'il est violent. À Raqqa, Martin Lemke monte dans la hiérarchie de l'État islamique. Selon la presse allemande, il est d'abord membre de leur police religieuse, puis de leur service de renseignement, la Niyat, particulièrement cruelle. Il se veut une unité de contre-espionnage chargée de débusquer, de torturer et de tuer les traîtres. À la fin 2016, Amar naît à Raqqa. L'État islamique a alors largement entamé son déclin. La coalition internationale mène une campagne de bombardement intense et meurtrière. Elle mobilise des avions, des drones, des hélicoptères et des forces spéciales déployées sur le terrain. Les Kurdes ont créé les forces démocratiques syriennes qui regroupent leurs combattants avec d'autres Arabes recrutés localement. Les hommes en noir enchaînent les défaites et reculent. Leur propagande s'enraye, de plus en plus de djihadistes, hommes et femmes censés mourir pour le califat, désertent. Et après moult déplacements, les enfants se retrouvent dans ce camp, aux mains d'une femme d'ailleurs qui les maltraite, et ils seront recueillis par les deux précédentes femmes dont on a parlé. Dans le camp d'Al-Hol, justement, Khadija et Mayani ne savent pas si elles repartiront un jour dans leur pays. « Aucune idée, nous n'avons aucune information, personne ne nous parle », dit la Sud-Africaine. Les deux femmes marchent lentement vers l'allée principale bordée de tentes et peuplée de silhouettes en niqab noir. Elles portent Amar et Obeda dans leurs bras. Ce qui est sûr, c'est que ces enfants doivent partir. C'est un enfer pour eux ici, ils souffrent. » Fin de citation.
Piercing radiant moon, the storming of Borjum, all the life running through her hair, approaching guiding light, our shallow years in fright, dreams are made winding through my heart. We'll be right back.
Spiders de System of a Down. Eh bien, après le Moyen-Orient, nous atterrissons au Cambodge avec une affaire qui a un lien avec la France. C'est un paysage tout en rondeur, de vallons verts et de terres ocre, de jungles et de cascades, loin de la frénésie et des klaxons de Phnom Penh aux confins de la frontière vietnamienne. À compter d'aujourd'hui, c'était mardi dernier, le 12, ces forêts de la province orientale de Mondolkiri serviront de cadre au procès qui s'ouvre à Nanterre, opposant 77 membres de l'ethnie Bunong du Cambodge au groupe Bolloré, nous détaillait Lina Sankari dans l'Humanité de mardi dernier. Les plaignants, qui vivent d'une agriculture itinérante et de cueillette, suivent un système de croyances animistes reposant sur la protection des ressources sylvicoles, refuge des esprits, et au cœur desquels reposent les sépultures de leurs ancêtres. Autant de rites qui cadrent mal avec l'avidité des multinationales. La terre est tout pour nous. Nous la considérons comme notre mère. Elle nous nourrit tant sur les plans alimentaires que spirituels et appartient à notre culture. Les multinationales disent venir pour le développement, le bien des gens. Nous ne sommes pas hostiles au développement s'il est juste, s'il ne profite pas seulement aux entreprises et aux gouvernements, mais aussi aux populations, précise Net Prak, porte-parole de l'association du peuple Bunong, le BIPA. Une ethnie que les autorités veulent contraindre à la sédentarité et pour laquelle la majorité khmer n'a que mépris. Ils sont les Phnong, les sauvages. En 2008, le Cambodge accorde une concession pour l'exploitation à grande échelle de l'EVA, dont on extrait le caoutchouc, à la société nationale Kaouchouli, KCD. Cette entreprise du BTP ne déroge pas à la règle qui veut que, pour voir ses affaires prospérer, il faut entretenir des liens étroits avec le pouvoir et la famille du Premier ministre Hun Sen. La firme est également liée depuis 2007 par une joint venture à Sok Finasia, enregistrée au Luxembourg et détenue à 38% par Bolloré et les fortunes belges Fabry et Ribes. À la tête d'une concession de 7000 hectares au cœur de la commune de Boursra, les deux sociétés ont profondément bouleversé la vie et l'environnement de 850 familles qui ont vu leurs terres accaparées pour un prix dérisoire, les plaçant dans une situation de vulnérabilité extrême, selon Thun Sarey, président de l'Association pour les droits de l'homme et le développement au Cambodge. En guise de dédommagement, la coentreprise a versé au Bunong $200 par hectare, une valeur marchande qui n'avait de sens pour aucun d'entre eux. Désormais, les habitants estiment que pour réparer le préjudice qu'ils subissent, le dédommagement financier ne peut être inférieur à 30 000 à 50 000 euros par personne et exigent la restitution de leurs terres. C'est une précision de la CGT qui dénonçait quelques jours avant la tenue du procès l'impossibilité faite à 11 Cambodgiens, dont une ONG et un avocat, de se rendre en France faute de visa. En violation totale de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit à un procès équitable. Tout l'enjeu de cette première phase est de déterminer si la compagnie française est bien la donneuse d'ordre de la catastrophe économique, sociale, environnementale et religieuse, comme le suggère la plainte. Ou si, comme elle s'en défend, l'entreprise ne dispose que de compétences de gestion dans la plantation. Dans son assignation, l'avocat Fyodor Relov, qui défend les intérêts des Bunong, note que l'intervention de la société de tête dans les activités des filiales est un fait accompli. Un certain nombre de dispositions dans les statuts du groupe mentionnent la culture d'EVA. Un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, daté de 2011, mettait déjà en lumière l'absence de transparence et les irrégularités dans l'octroi des terres et demandait un moratoire ainsi que la suspension de l'exploitation industrielle. Alors que la législation cambodgienne exige la présentation d'une étude d'impact environnemental et social, EIES, pour toute autorisation d'une concession, des EIES préliminaires ont suffi pour l'octroi des concessions exploitées par la société Sokfin KCD, relève la FIDH, donc la Fédération internationale des droits de l'homme. L'organisation rappelle également que le droit des peuples autochtones à la propriété collective est censément protégé par la loi. Mais les Bunong ont vu ce statut remis en cause par les autorités qui ont favorisé une forme de colonisation intérieure. Pour convaincre les plus réfractaires, la Sogfin admet également avoir lancé des opérations de défrichage autour des champs afin de les isoler et de les contraindre à partir. Pire, nombre de Bunong se sont endettés en tentant de reprendre des lots d'EVA dont les parcelles étaient pour la plupart stériles. Privée de ses terres, la communauté dépend désormais de l'économie de marché et de ses fluctuations pour se nourrir. À terme, l'exode semble le seul horizon. Je vais reprendre. Donc, on dirait qu'il y a eu un blanc, puisque j'ai oublié de pousser le curseur. Alors, donc, je reprends. Thaïlande. En monarchie, la rébellion a ses limites. La Thaïlande a mis lundi 11, donc, un point final au psychodrame politique qui secouait le royaume depuis vendredi. Il s'agit de vendredi 8 février. La commission électorale a ainsi validé le retrait de la candidature de la sœur du roi Ramadis, la princesse Ubol Ratana, au poste de Premier ministre en vue des législatives du 24 mars. C'est un article de Lina Sankari, également dans l'Humanité de mardi dernier, le 12. « J'ai abandonné mon titre de noblesse et je vis comme une roturière, comme une citoyenne ordinaire au sens de la Constitution », justifiait la princesse sur Instagram. Il faut dire que cette annonce avait créé un séisme dans le paysage sclérosé de la politique thaïlandaise pour ses premières élections depuis le coup d'État de la junte en 2014. Tous les membres de la famille royale se doivent d'être au-dessus de la politique. Ils ne peuvent pas avoir de position politique car cela est en pleine contradiction avec la Constitution, recadrée hier à la commission électorale. C'est d'autant plus vrai pour la sœur du roi qui entendait concourir au nom du parti Thai Raksa Chart, ex-Petai, formation des ex-chemises rouges. Deux anciens premiers ministres de la famille Shinawatra, liés à cette tendance honnie par le pouvoir militaire et la monarchie, furent respectivement destitués en 2006 et 2014. Il s'agissait du frère aîné et de sa sœur cadette. Il était toutefois hors de question pour la junte et la couronne de voir la candidature de la princesse Ubol Ratana ouvrir la voie à un retour d'exil des deux anciens chefs de gouvernement qui tentent toujours d'influer le jeu politique. Le climat de paranoïa a été entretenu lundi par des rumeurs de coups d'État. Fake news a balayé le chef de la junte au pouvoir, Prayut Chan-o-cha, lui-même candidat au poste de Premier ministre. D'ores et déjà, l'Association pour la protection de la Constitution demande la démission des responsables du Thai Raksa Chart, dont les dirigeants demeurent pourtant très affaiblis par le coup d'État et la répression. Liés aux anciennes chemises rouges, les sympathisants de cette formation, issus des provinces rurales, restent perçus comme des antimonarchistes viscéraux pour lesquels l'élite urbaine n'a que mépris. La candidature d'Ubol Ratana mettait l'institution royale en danger, insiste Puatong Pawakapan, professeur de sciences politiques à l'université Chulalongkorn de Bangkok. Premier membre de la monarchie à concourir à une élection, la sœur du roi a fait machine arrière dès samedi de la semaine dernière, pressée par le monarque dont le goût pour l'absolutisme n'avait pas connu d'égal depuis la proclamation de la monarchie constitutionnelle en 1932. Une candidature hautement inappropriée à ses dires. En mettant son veto, le roi affirme le rôle grandissant de l'institution royale. Depuis 2017, il multiplie les interventions, refus de signer le projet de constitution, changements radicaux au sein du Conseil suprême, etc., afin de renforcer son autorité et de diriger le pays vers une monarchie absolue dans laquelle les rêves de démocratie d'une princesse déchue n'ont aucune place. Et Lina Sankari savait de quoi elle parlait quand elle écrivait ces phrases. Deux cadavres flottant dans les eaux boueuses du Mékong, deux hommes tabassés au point d'être méconnaissables, dont les corps ont été éviscérés puis remplis de ciment avant d'être enveloppés dans des sacs de riz ficelés et jetés à l'eau. Malgré ces précautions, leurs corps ont été retrouvés fin décembre sur les rives d'un petit village du nord de la Thaïlande, près de la ville de Nakhon Pannon, à la frontière avec le Laos. Les tests ADN viennent de confirmer leur identité. Il s'agit, comme le craignaient déjà leur famille, de Puchana et Kasalong, 54 et 47 ans, deux dissidents thaïlandais anti-monarchie, en exil au Laos voisin depuis quelques années. Ils étaient les assistants d'un troisième activiste plus âgé et plus célèbre, Surachai Dhanwanusorn, ancien leader du Parti communiste thaïlandais dans les années 80. Connu pour ses déclarations antimonarchistes fracassantes, il avait déjà passé plusieurs années en prison pour crime de lèse-majesté. Disparu en même temps que ses compagnons à la mi-décembre, son corps n'a pas été officiellement retrouvé, rapporté Pierre Touré dans Libération de vendredi. Héritier de la mouvance communiste, qui comptait plusieurs millions d'adeptes dans le royaume jusque dans les années 80, les membres du discret mouvement abolitionniste thaïlandais ont pour la plupart rejoint le groupe des chemises rouges dans les années 2000 pour s'opposer au régime militaire. Le républicanisme est considéré comme un crime de lèse-majesté en Thaïlande, passible de 15 ans de prison. Inquiété par la junte après le coup d'État de 2014, Surachai et d'autres républicains s'étaient réfugiés au Laos voisin, d'où ils continuaient à émettre des programmes radio anti-junte et anti-monarchie. Ils sont quelques dizaines à s'y cacher encore. La plupart sont musiciens, écrivains, animateurs radio. Ils vivent en bande pour se sentir plus en sécurité dans des maisons au bout de ruelles discrètes en périphérie des villes laotiennes. Les propriétaires et les voisins ne se posent pas de questions, mais tout se sait. L'administration communiste mandate des chefs de village pour rendre compte de tout mouvement de population. Les parias thaïlandais sortent peu sur de vieilles motos usées, se nourrissent de riz et de nouilles instantanées grâce au maigre soutien financier d'un réseau de sympathisants dispersés dans le monde. Dans l'une de ces maisons qu'ils appellent les refuges, les membres du groupe de rock Feu Glacé, cinq hommes et une femme, entre 30 et 47 ans, résident ensemble. Ils déménagent régulièrement pour des raisons de sécurité. Ils ne donnent pas leur nom pour protéger leur famille. Et lorsqu'on les interroge sur leurs convictions, certains sont très politisés. D'autres semblent un peu perdus, comme des adolescents rebelles, piégés par une blague qui serait allée trop loin. Le plus âgé est un compositeur-arrangeur assez célèbre dans le milieu du rock thaïlandais. Ironiquement, il a débuté sa carrière en arrangeant des mélodies à la gloire de la famille royale, financées par de riches donateurs. Et c'est lors d'une période d'inondation massive, trouvant que le gouvernement protégeait les centres-villes en laissant les paysans se noyer, qu'il a commencé à changer d'avis et est entré dans l'activisme. Pour ces hors-la-loi, la monarchie est avant tout le sommet d'un système fondé sur le maintien des inégalités et qui incarne l'absence d'état de droit. Leurs références idéologiques sont assez éclectiques, avec une large place réservée à la Révolution française. Ils utilisent dans plusieurs de leurs clips vidéo des gravures d'époque représentant la mort de Louis XVI. Ils ont également réalisé des versions thaïlandaises du chant des partisans et de l'international. Jusqu'à la disparition de leurs camarades et mentors il y a quelques semaines, ils continuaient à animer des émissions de radio sur YouTube, l'un de leurs rares moyens de subsistance. Mais depuis la mort des trois militants, ils sont terrorisés. Les deux hommes retrouvés dans le fleuve portent à cinq le nombre de dissidents républicains disparus ou tués au Laos depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis l'avènement du nouveau roi de Thaïlande. En général, on ne retrouve pas les corps. La situation est d'autant plus explosive que la paranoïa monte entre différents groupes de fugitifs, notamment entre les lèse-majestés et les armes à feu, c'est-à-dire les groupes recherchés pour trafic d'armes ou faits de violence pendant les manifestations des chemises rouges en 2010 à Bangkok, eux aussi exilés au Laos. Ils se feraient rémunérer pour localiser les lèse-majestés, entre guillemets, et parfois même effectuer la sale besogne. L'un des chanteurs, surnommé Tito, affirme qu'il a la preuve de leur implication dans la disparition de Surachai et de ses compagnons via des conversations sur Line, un service de messagerie très utilisé dans la région. Ces groupes-là, ils ne sont pas politiques, ce sont des gangs en fait. C'est facile de les convaincre avec un peu d'argent. De toute façon, le crime de lèse-majesté suscite une telle haine chez les Thaïlandais anonymes que certains sur les réseaux sociaux offrent même de les tuer gratuitement, juste pour rendre service à la nation. Et pour ces artistes, il y a urgence. La date de couronnement du nouveau souverain thaïlandais a été fixée au 4 mai prochain. Je pense que si on ne sort pas du pays avant le couronnement, on sera tous morts, estime l'un d'entre eux. À Bangkok, un ancien membre du commandement des forces spéciales de Lopburi, une unité de rangers d'élite avec un mandat pour des opérations au Laos, confirme cette inquiétude. Et les élections législatives du 24 mars n'y changeront rien. Après la candidature avortée la semaine dernière de la sœur du roi sous l'étiquette d'un parti considéré comme « rouge », entre guillemets, l'avantage semble être aux militaires, qui se réservent d'ailleurs de facto une partie des sièges. Le 13 décembre, au lendemain de la disparition de Surachai et de ses compagnons, le premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha, s'est rendu au Laos, où il a réitéré sa demande d'extradition pour les fugitifs thaïlandais accusés de lèse-majesté, et proposer un plan d'aide à la reconstruction de 3 millions d'euros pour des zones affectées par la rupture d'un barrage. Certains de leurs camarades ont déjà obtenu le statut de réfugiés, en France notamment, qui accueille désormais quelques-uns de ces dissidents thaïlandais, ceux qui possèdent des profils académiques surtout. Ceux qui restent ne sont pas des intellectuels, ils parlent mal anglais et n'ont pour l'instant pas de soutien financier. Je pense que nous n'avons pas un profil assez prestigieux pour qu'un pays européen nous accepte, sourit tristement Yam, la seule jeune fille du groupe. On est prêt à travailler pourtant, la cuisine, la plonge, qu'importe. Om Neko, son ancienne camarade aujourd'hui réfugiée en France, se souvient. Je suis passé par là, j'avais peur de mourir, mais j'avais surtout peur de la torture. C'est un moment de grande anxiété pour eux. Du côté des ONG, on n'attend pas grand-chose. Aucune n'est basée au Laos. Le bureau du commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le plus proche, est au Cambodge, et les grandes organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International ou Human Rights Watch, ont toutes leurs sièges à Bangkok, d'où elles rayonnent sur la région. Elles n'ont pas très envie de se fâcher avec leur pays hôte, qui leur offre par ailleurs une très grande liberté d'action. Quitte à fermer les yeux sur le dernier tabou thaïlandais, le crime de lèse-majesté.
ฉันหวังไว้อยู่เสมอขอให้มีวันหนึ่งที่
un morceau d'une artiste appelée Beau, B-E-A-U. États-Unis, maintenant, dans nos éditions précédentes, nous sommes revenus plusieurs fois sur l'insistance de Donald Trump à faire construire un mur infranchissable sur toute la longueur de la frontière des États-Unis avec le Mexique. Après un shutdown de presque 5 semaines, Trump est revenu à la charge. La Maison-Blanche l'avait confirmé la veille, il l'a fait ce vendredi 15 février. Donald Trump a annoncé depuis la Maison-Blanche qu'il décrétait l'urgence nationale aux États-Unis afin de financer la construction de son mur à la frontière mexicaine. Inconnu ou méconnu de la plupart des Américains, cette disposition déjà prise par tous les présidents américains précédents est un vaste ensemble de lois qui confère au président des pouvoirs considérablement renforcés. En effet, ce ne sont pas moins de 136 dispositions légales en temps normal des pouvoirs dormants qui vont désormais être à la disposition du président, précisé le Huffington Post vendredi. Ces prérogatives exceptionnelles doivent permettre à celui-ci de mettre rapidement fin à une situation de crise en se passant d'un accord du Congrès qui prend du temps. Elles sont toutefois critiquées par certains observateurs et politiques qui y voient une menace directe à la démocratie et aux libertés individuelles. Listé par le Brennan Center for Justice, près de 90 de ces dispositions légales peuvent être utilisées à la discrétion du président, tandis que la quarantaine restante nécessite l'accord du responsable de l'administration concernée. Et le ou les décrets pris par le président grâce à ces dispositions peuvent avoir une durée de vie limitée à 6 mois, ou alors particulièrement longue. Plusieurs d'entre eux ont été reconduits chaque année au point d'être toujours en vigueur. Cela concerne donc des dispositions prises par Obama et Bush père. Le président peut ainsi, s'il le souhaite, geler des comptes bancaires, réquisitionner des propriétés privées ou interdire l'accès à certains sites Internet. Ci-dessous, voici quelques autres de ces dispositions légales dans leur intitulé complet. Le président peut, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité ou de la défense nationale, suspendre ou modifier les réglementations applicables aux stations ou aux appareils capables d'émettre des radiations électromagnétiques, ainsi qu'ordonner la fermeture de toute station de radiocommunication. Heureusement, nous ne sommes pas aux États-Unis. Le président peut utiliser le service de santé publique dans la mesure et de la manière qui, à son avis, favorise l'intérêt public. Le secrétaire à la santé et aux services sociaux peut autoriser l'utilisation d'un médicament, dispositif ou produit biologique non approuvé ou suspendre l'utilisation d'un médicament, dispositif ou produit biologique approuvé. Le président peut décréter que les heures de travail normales des ouvriers et mécaniciens dans l'armée, produisant des fournitures militaires ou des munitions, peuvent être dépassées et payées en heures supplémentaires. Le président peut autoriser les navires publics à évacuer des déchets médicaux potentiellement infectieux dans les eaux de mer à plus de 50 000 marins de la terre la plus proche, après avoir pris toutes les précautions nécessaires. Bon, en tout cas, il a le droit de les balancer à la mer, et sans précaution, bon, on ne sait pas ce que ça veut dire, une précaution supplémentaire, 50 000 marins, ça fait 70 km à peu près. Mais comme le relève le New York Times, ce sont avant tout deux des 136 prérogatives qui intéressent avant tout Donald Trump, car elle pourrait être utile au financement et à la construction de son mur frontalier avec le Mexique. Le secrétaire de l'armée peut suspendre les travaux de génie civil de l'armée et diriger des troupes et d'autres ressources pour aider à la construction de travaux de construction autorisés, de construction militaire et de projets de défense civile essentiels à la défense nationale. Le secrétaire à la défense peut entamer des projets de construction militaire non autorisés par la loi, nécessaire pour soutenir un tel recours aux forces armées en utilisant des fonds affectés par le Congrès à des fins de construction militaire et qui n'avaient pas encore été financés. Bon. Voilà donc une fausse urgence nationale. Voilà comment les Américains, manifestant le lundi 18 février à Washington, qualifient la dernière décision de leur président. En décrétant l'urgence nationale 3 jours plus tôt, Donald Trump a mis à exécution une menace qu'il faisait peser sur l'opposition démocrate depuis plusieurs semaines si le Congrès américain se refusait à financer son fameux mur de séparation avec le Mexique. Les opposants au président américain voient dans cette décision un abus de pouvoir. Rien ne justifie, selon eux, la qualification d'état d'urgence réservée à une situation exceptionnelle. Un point de vue partagé par 16 États américains, qui ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral du Texas pour faire annuler cette décision. Les plaignants remettent en cause le caractère urgent en se fondant sur des données publiées par les ministères ou administrations fédérales, comme les douanes, qui écrivent que les entrées illégales sont au plus bas depuis 45 ans. La plainte avance également que le ministère de la Sécurité intérieure a enfreint la loi sur la protection de l'environnement en n'évaluant pas l'impact environnemental du mur en Californie et au Nouveau-Mexique. Le recours contient par ailleurs une demande de suspension en référé de la déclaration d'urgence tant que se poursuit la bataille judiciaire, selon le quotidien Washington Post. Sauf suspension par décision de justice, la déclaration d'urgence nationale devrait permettre à Donald Trump de contourner le Congrès et ainsi de débloquer des fonds fédéraux, notamment destinés au Pentagone, pour construire ce mur censé endiguer l'immigration clandestine. Au total, et en comptabilisant les 1,4 milliard de dollars débloqués par le Congrès, il pourrait, selon la Maison-Blanche, disposer de quelque 8 milliards pour la réalisation d'une de ses principales promesses de campagne. C'était donc un article du Huffington Post d'aujourd'hui. Voilà, il est 17h14 à la pendule de Canal Sud 92.2 et c'est la fin de cette émission Planète Rouge. On se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, à la même heure, c'est-à-dire l'heure normale 15h30, il y aura Oxymore. Et peut-être à 18h, aujourd'hui, il y aura Les Petits Papiers. En tout cas, je ne me rappelle plus, vers 21h30, ce sera le tour de Voyelles, je pense, l'émission Voyelles, suivi après à 22h30 de l'émission de reggae. Positive vibration. Voilà, donc excusez les imperfections techniques durant cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Planète Rouge, c'est toujours Canal Sud, en musique cette fois-ci. À bientôt et bonne écoute. Yours.